Salut à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 22 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel Œil. J'avais envie de partager quelques prises de recul à un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain. Un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. Alors je pars à la rencontre de personnalités et de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. Ces personnes qui, de près ou de loin, ont rêvé, ont osé, ont expérimenté et qui ont de jolis messages à nous transmettre pour nous aider à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Parce que tous, on a besoin de conseils, d'inspiration et de vagues d'espoir auxquelles se raccrocher. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser.
Je ne peux pas dire que je l'ai trouvé, je pense que c'est en fait une recherche permanente, que ce soit dans ton travail ou que ce soit dans ta vie personnelle, tu n'arrives jamais au bout. Mais c'est bien d'éplucher et de passer les pages les unes après les autres en se disant j'avance. Au final, je pense que personne aujourd'hui n'est capable de dire je suis là où je pensais être il y a 5 ans. Donc je ne sais pas où je serai, mais j'y vais. Et j'y vais avec enthousiasme, avec plein de projets, avec plein d'envies. Et je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux aux gens aujourd'hui, c'est de, quoi qu'ils décident, quoi qu'ils fassent, de s'épanouir dans leurs projets et de foncer et d'être en paix avec leurs décisions.
J'adore les histoires. Celles que l'on raconte au coin du feu bien au chaud, allongé dans l'herbe à regarder les étoiles de l'été, ou au bord du lit pour s'endormir. Quand on est petit, on nous berce d'histoires tous les jours pour nous éveiller au monde. Après, on grandit et on laisse les raconteurs d'histoires de côté. Pourtant, je crois que plus l'on devient des adultes, plus on a besoin de belles histoires à raconter et à écouter. Des histoires douces, comme pour faire barrage aux mauvaises nouvelles qui nous aspirent. Entre le couvre-feu et le froid de l'hiver, les plaids et les chocolats chauds, je me suis dit que cette période était plus que jamais l'occasion de vous demander, à vous, de me raconter vos histoires. Alors j'ai lancé un appel sur la page Instagram Nouvel Œil, et j'ai rencontré Laure. Laure qui nous confie ici sa vie, avec tellement de douceur, de son enfance à son arrivée dans la vie des grands. Cette vie des grands qui nous effraie tous un peu. M'immerger dans l'intimité de Laure le temps de quelques heures, c'était un réel cadeau. Elle m'a confié, après cette interview, que jamais elle ne s'était autant livrée, et que ça faisait du bien de dire les choses que l'on retient. Ses paroles m'ont rassurée, m'ont inspirée, et j'espère qu'en retour, elles vous donneront l'envie d'avancer sur votre chemin avec confiance. Bienvenue dans l'œil de Laure.
Bon, mais donc, je m'appelle Laure. J'ai 27 ans, je viens du Pays Basque et aujourd'hui je travaille dans une boîte de consulting, donc j'accompagne les entreprises en gestion de leurs risques, risk management. J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Hendaye, qui est à la frontière entre l'Espagne et la France, sur la côte atlantique. J'ai eu une enfance, je pense qu'on peut dire que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai grandi entre océan et montagne, dans une petite école à 5 minutes à pied de la maison. J'avais des parents très présents, un petit frère. Je sais qu'on n'a pas tous les mêmes familles et qu'on n'est pas tous... Il y a des enfants uniques, il y a des grandes familles. Moi, je pense que j'ai énormément de chance d'avoir eu mon petit frère. On a grandi ensemble, on a vécu énormément de choses ensemble. On a 2 ans d'écart, c'est mon petit frère. Enfin, petit, il fait 20 centimètres de plus que moi et il me domine de sa taille, mais c'est mon petit frère et ça restera toujours mon petit frère. En plus de l'équitation, c'est vrai que moi, j'ai toujours été très curieuse de beaucoup de choses. Donc, j'ai fait du piano très jeune. J'ai dansé aussi loin que je me souvienne, je danse. Alors, j'ai commencé par du modern jazz. J'avais 6 ans. J'ai fait mes cours à Saint-Jean-de-Luz, dans une ville à côté de, à côté d'Hendaye. J'ai fait un petit peu de classique. J'ai tenu à peu près 2 ans. Avant de me rendre compte que le classique c'était pas fait pour moi, parce que il y avait tellement de maîtrise et c'est magnifique et j'adore regarder de la danse classique, mais il y avait trop de maîtrise à mon goût. J'avais besoin de quelque chose de avec plus de place pour l'expression personnelle et ça je le retrouvais dans le modern jazz. donc du classique. J'ai aussi tenté la danse africaine. Ça n'a pas vraiment été un succès, mais en tout cas, c'était super amusant. C'était une autre dynamique du corps, c'était d'autres déclics, c'était quelque chose de totalement différent de ce à quoi j'étais habituée. Et je suis sortie de ma zone de confort vraiment très fort ce jour-là. On n'avait pas de bande son, on avait deux trois musiciens qui étaient toujours là et on dansait au bruit des tambours. Et c'était absolument génial. Enfin, c'était une sacrée expérience. J'ai continué avec du hip-hop. En arrivant à Paris, ça fait 2 ans que je suis dans une école de hip-hop et mon Dieu, là aussi, quand il s'agit de sortir de sa zone de confort, mets-toi au hip-hop. C'était les premières semaines, je disais, mais pourquoi je m'inflige ça? Et pareil, une autre dynamique du corps et c'est là que tu te rends compte que tu crois te connaître dans tes moindres détails et au final, tu apprends toujours davantage sur toi et c'est assez chouette. Donc ouais, c'était une enfance riche de curiosité, du tir à l'arc, des choses un petit peu plus voilà, étranges. Enfin, on avait aussi la chance de faire beaucoup de planches à voile, de voilier, de à l'école, l'école primaire par exemple, on faisait du bateau. Donc on avait nos petits cours d'optimiste sur la baie de Tchingoudi. C'est la baie d'Andaï en fait, où tu l'allonges, tu as une longue promenade à vélo d'un côté, piéton pour les autres, et t'as toujours un petit groupe d'optimistes au milieu avec des enfants qui s'évertuent à essayer de diriger tant bien que mal leur petit bateau. Alors le surf, on en faisait à l'école. J'ai jamais été une surfeuse dans l'âme, mais on en a fait à l'école. C'était toujours un moment assez étrange. Moi, très longtemps, j'ai eu peur des vagues. J'ai eu peur des vagues et j'étais très bien sur le plancher des vaches. Donc l'équitation, la danse, c'est des activités qui me plaisaient bien parce que je me sentais plus en sécurité que dans l'eau. Et là où j'ai vraiment pris du plaisir, c'est avec le voilier, c'est glisser sur l'eau. C'était quelque chose de beaucoup plus rassurant pour moi. Et c'était la douceur des embruns et l'écume sur les lèvres, et c'était des choses qui m'apaisaient beaucoup. Le surf, on a de très bons surfeurs au Pays Basque, mais je laisse le surf à d'autres. Alors à l'école, j'étais l'élève timide. J'étais la bonne élève qui, le premier jour de chaque rentrée, arrivait 1h30 avant l'ouverture des classes pour être assise à côté de sa meilleure amie devant la maîtresse. Je sais qu'on a toujours dit que je ne me contentais pas de faire correctement mes devoirs. Je m'assurais aussi que mon voisin à côté avait bien compris l'exercice et qu'il avait fini ses devoirs aussi. Donc j'ai toujours été à l'écoute des gens. Après, les enfants, c'est cruel. Et très tôt, je me suis rendu compte de cette cruauté qu'on avait les uns envers les autres. Et j'aime pas aujourd'hui, quand on entend parler des hypersensibles, je crois que c'est juste une façon de revendiquer une sensibilité dans une société où on nous étouffe et où on nous interdit d'être sensible parce que être sensible, c'est être faible. Donc hypersensible, non. Sensible, ouais, je l'ai toujours été. Et sensible aux gens, aux façons dont ils s'adressaient à moi, toujours à essayer de comprendre pourquoi ce ton, pourquoi cette façon de t'exprimer, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est toi. Donc toujours des remises en question sur mes relations aux enfants de mon âge. Et au collège, ça a été pire encore. Ça a été si les enfants sont cruels, les ados sont méchants. Et je dirais pas que j'étais blanche comme neige non plus, hein. On a tous été, je pense, un jour la victime, mais aussi le bourreau de quelqu'un. Et je pense qu'à mes heures, j'ai été dure avec certains de mes camarades. Donc j'avais mon petit cercle d'amis, mais j'étais pas à la recherche de davantage de relations avec les jeunes de mon âge, en tout cas à l'école, parce que on était très différents. En revanche, j'ai eu la chance d'avoir toutes ces activités extrascolaires, où là, je me retrouvais avec des gens plus jeunes, plus vieux, mais des gens qui avaient une passion commune avec moi, et ça change tout. Le plaisir de se retrouver pour juste travailler un déplacement latéral des hanches à l'équitation, sur ton poney préféré avec ta meilleure amie, je pense que c'est quelque chose. Aujourd'hui, c'est mes plus beaux souvenirs, ils sont pas à l'école, ils sont en dehors. Ma relation avec les jeunes de mon âge, elle n'a pas été tant difficile par rapport à notre âge, mais par rapport à ce qui nous rassemblait. Et quand ce qui nous rassemblait, c'était quelque chose d'aussi conventionnel que l'école, ben il y avait pas de match. On s'entendait pas forcément. Quand j'entends des gens de mon âge m'expliquer que eux n'ont pas fait quand ils étaient jeunes de sport, qu'ils n'ont pas fait de musique, qu'ils n'ont pas eu d'activité, et que je leur demande mais enfin vous faisiez quoi? Et au final ils traînaient avec leurs potes. Et c'est génial de traîner avec ses potes, mais je pouvais jamais m'empêcher de me demander, mais du coup, où est-ce que tu les as rencontrés? Parce que, qu'est-ce qui vous a unis? Qu'est-ce qui vous a... Et c'est vrai que j'ai, je pense, une chose pour laquelle je suis extrêmement reconnaissante vis-à-vis de mes parents, c'est le fait qu'ils m'aient toujours poussée à faire plein de choses. Et à faire ce que j'avais envie de faire. Ça, c'était mon rapport aux enfants de mon âge. Alors une fois que j'ai eu mon bac, oula, déjà avant le bac, le lycée, ça a été quelque chose parce que je n'arrivais pas à me décider. Je savais pas si je voulais faire S, L, ES. J'aimais les maths, j'aimais pas trop la chimie, mais j'aimais bien le prof en seconde, donc je m'appliquais à quand même faire les choses correctement, au moins par respect pour lui et pour ses cours en fait, et exclusivement par respect pour lui et pour ses cours. Donc j'ai choisi ES, en indécise que je suis, mais j'ai quand même pris option latin-grec parce que vraiment j'aimais bien tout ce qui était littéraire. Et j'ai quand même voulu aussi prendre spé maths parce que les mathématiques, c'était chouette aussi. Alors vraiment, c'était un parcours, tout ce que je pouvais prendre, je le prenais. Et ça m'a fait beaucoup de bien. On a fait des choses, je pense, durant ces options, par exemple latin grec, que ne font pas des élèves en cursus général. On a fait du théâtre. Je me suis retrouvée à jouer Tirésias dans une pièce de Sophocle, Œdipe roi. Donc Tirésias qui est le grand devin de la mythologie grecque, qui est aveugle. Et alors, jouer un vieillard aveugle sur scène devant tous tes camarades de classe, ça a quelque chose. C'est un petit peu angoissant parce que tu renvoies cette image de petit intello qui joue dans des pièces de théâtre au lycée. Et en même temps, être sur scène, sentir le silence autour de toi, tout le monde suspendu à tes lèvres, et te dire, c'est le moment où je ne suis plus moi, je suis Tirésias, le grand devin de la mythologie. C'était, c'est des choses que je suis vraiment contente d'avoir vécu. Et donc ça, c'était mon lycée. C'était quelque chose d'un petit peu chaotique et très riche en options. Sauf qu'arrivé en terminale, je savais toujours pas ce que je voulais faire. On m'a dit, ne va pas à la fac, essaie de faire peut-être une prépa, ou va en école de commerce, ou je savais pas. J'étais totalement perdue. Je savais juste que j'aimais la littérature, j'aimais les maths, j'aimais la sociologie. J'étais là, je fais quoi là? Et je suis partie en prépa. Je suis partie en prépa littéraire avec donc cagne hypocagne mais BL, donc mathématiques, sciences sociales, littérature. Donc on faisait toutes les matières classiques d'une prépa littéraire et en plus on avait 6 heures de maths et 6 heures de sociologie et économie. C'était 2 années difficiles. C'était des dissertations de 6 heures tous les mercredis après-midi jusqu'à 19 heures. C'était des calls 2 à 3 fois par semaine. C'était passer de la place de meilleur élève qui tutoie les 19,5 de moyenne en mathématiques à tout d'un coup 2,2 à ton premier devoir de maths. Beaucoup de remises en question, beaucoup d'angoisse aussi sur ta capacité à arriver au bout et surtout à arriver au bout indemne. J'ai eu assez peur dans les premières semaines de me casser. Et là où je pense que j'ai eu de la chance, encore une fois, c'est les rencontres que tu fais. J'ai fait des rencontres incroyables. Aujourd'hui, mes meilleurs amis, ce sont des gens que j'ai rencontrés en prépa. Mon premier amour, ça a été un camarade de prépa aussi. Et ça a été que des bons moments au final. Et je trouve ça génial d'avoir été capable d'extraire d'une situation difficile uniquement de bonnes choses. Et d'être capable d'en tirer l'essence d'une bienveillance qu'on avait tous les uns à l'égard des autres. C'était des encouragements permanents, c'était une solidarité constante. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de très beau dans cette expérience de prépa. Et sauf que le problème, c'est qu'arrivé à 2 ans de prépa, je savais toujours pas ce que je voulais faire. J'ai rencontré plein de professionnels pendant l'été qui a succédé à ma première année de prépa. Je voulais rencontrer des gens, voir ce qu'ils faisaient, est-ce que ça pouvait me plaire, qu'est-ce que je devais faire pour y arriver. J'ai rencontré des psychologues, des comptables, des avocats, j'ai rencontré des musiciens. Pendant 2 mois, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'était, et ça a toujours été une angoisse permanente pour moi. Et au final, j'ai rencontré un avocat et je me suis dit, il aide les gens et ça, j'aime bien. Donc pourquoi pas, je pars en fac de droit. Donc me voici partie à Bordeaux pour faire une licence de droit. Je suis rentrée directement en L2 et j'ai fait mes 2 années de licence à Bordeaux. La fac, ça change. La fac, ça change. Et je me suis retrouvée livrée à moi-même, totalement heureuse d'avoir toutes mes soirées libres, mes week-ends pour sortir, pour voir des gens, pour rentrer chez moi. J'avais l'impression de revivre. Et donc, j'avoue que ma licence, en tout cas, s'est faite en douceur, quoi. C'était du travail, mais par rapport à ce que j'avais connu à Toulouse, rien à voir. J'étais bien plus libre de faire d'autres choses à côté. Donc, je me suis aussi remise à la danse. J'ai pu renouer avec de vieux amis de lycée. Autant de choses que j'avais pas eu le temps de faire pendant 2 ans. C'était une autre expérience qui m'a amenée, en fait, jusqu'à Paris. Où j'ai commencé mon master 1, à l'époque, c'était pour... Oh, la vieille. À ce moment-là, c'était aussi pour suivre mon copain, parce que ça faisait 2 ans qu'on était en relation à distance, ça faisait 4 ans qu'on était amoureux, et je pense qu'on avait besoin de passer à une autre étape de notre relation. Ça m'arrangeait aussi qu'il soit sur Paris, parce que ça m'a permis de rentrer à l'université de Nanterre, où il y a quand même de très bons profs, surtout en droit des affaires, la filière que j'ai choisie. Et j'ai eu l'occasion, voilà, de vraiment vivre mon expérience parisienne grâce à cette décision, qui était une décision du cœur, mais au final, c'était la bonne décision pour moi à ce moment-là. Et là, j'ai découvert la vie parisienne. Et alors, la vie parisienne, pour moi, ça a été 1 heure de métro tous les matins pour aller à la fac, des horaires de fac à n'en plus finir, terminer les cours à 20h, rentrer chez toi à 21h, vite partir faire les courses. Je me souviens d'une fois où je me suis endormie comme une masse. Mon réveil a sonné et j'avais l'impression que je venais de m'endormir. Et c'était pas la première fois que ça me le faisait, c'était épuisant et juste ce réveil a sonné. Et là, j'ai fait « Non, pas déjà !» Et j'ai fondu en larmes, au réveil. Enfin, j'étais épuisée, j'avais l'impression que je me faisais avaler par cette ville et ces gens. Et j'ai eu quelques expériences avec des Parisiens acariâtres dans le métro qui m'ont juste collé des baffes, en fait. J'étais tellement habituée à être entourée de gens tranquilles, doux, bienveillants. Tout ce que, en fait, Paris n'est pas au premier abord. Et je dis bien au premier abord. Parce qu'après, j'ai commencé à découvrir cette ville et j'en suis tombée amoureuse, je pense, comme beaucoup de gens. Parce que sa richesse se retrouve dans tous les coins de rue. On parle toujours des musées, on dit que c'est génial tous les musées qu'on peut faire. Oui, mais au-delà des musées, c'est les petits concerts de quartier, c'est l'odeur des falafels quand tu te balades rue Mouffetard, c'est la musique qui emplit les quais de Seine au beau jour, c'est autant de petites expériences, qui que tu sois, quoi que tu fasses, tu trouveras chaussures à ton pied à Paris. C'est la ville de tous les possibles. Donc aujourd'hui, ça fait presque 3 ans que j'ai terminé mes études. Alors après le master en droit des affaires, j'ai fait un master en fiscalité. C'était plutôt chouette. Sur le papier. Une fois que j'ai fait mon stage, j'ai vite compris que c'était pas ce qu'il me fallait. Donc je continuais un petit peu d'évacuer les choses qui n'étaient pas faites pour moi, en cherchant toujours ce qui serait fait pour moi. Je peux pas dire que je l'ai trouvé, je pense que c'est en fait une recherche permanente, que ce soit dans ton travail ou que ce soit dans ta vie personnelle, tu n'arrives jamais au bout. Mais c'est bien d'éplucher et de passer les pages les unes après les autres en se disant j'avance. Et je n'ai peut-être pas trouvé ce qui me plaît, mais chaque chose que je fais, quelque part, me plaît aussi. C'est-à-dire que je ne me débat pas avec le vide de mon existence, juste je la vis au jour le jour. Et donc j'ai vécu mon expérience de fiscaliste, que j'ai validée avec ma petite mention très bien, et en prenant toujours énormément de plaisir dans ce que je faisais, mais c'était pas ça. Donc je suis partie en master droit et éthique des affaires à Cergy. Là, ça a été encore une toute autre expérience parce que c'était en alternance. Donc, je travaillais 3 jours par semaine dans une agence rattachée à un ministère et 2 jours par semaine, j'étais à la fac. Les autres élèves étaient en alternance. Moi, je me suis dit non, l'alternance, je vais partir en Écosse pour mon 2e semestre et je vais faire un diplôme de droit commercial international en plus de mon premier master. Donc là, une autre expérience encore parce que L'Écosse, il fait froid, il fait nuit très tôt, et je suis arrivée là-bas en plein mois de janvier. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Je suis arrivée dans un appartement miteux où le seul radiateur de toute la maison, c'était le radiateur de ma chambre. Il faisait tellement froid dans ma cuisine et dans ma salle de bain que mes produits, mes savons, gel moussant gelaient. Je devais les passer sous l'eau chaude pour qu'ils redeviennent liquides. Quand je cuisinais, j'étais en écharpe et je voyais la buée sortir de ma bouche tellement il faisait froid. Je me suis déjà retrouvée avec des coupures d'électricité alors que j'étais sous la douche. Douche électrique, bien sûr, donc plus d'eau chaude. À 22h dans la nuit noire écossaise, je me suis dit, mais bizarrement, Paris me manque. Comme quoi, tout arrive. Et ça a été plus 6 mois de découverte, on va dire, de l'Écosse que de la législation écossaise. C'était beaucoup de voyages. J'ai traversé l'Écosse en long, en large, en travers. J'ai rencontré des gens un petit peu partout. Et surtout des gens d'un peu partout aussi. Des Chinois, des Écossais, des Indiens, des Égyptiens, beaucoup de Français, des Espagnols, des Italiens, beaucoup d'Italiens, des gens d'un peu partout. C'était encore une fois quelque chose de très riche en découverte, de se confronter à d'autres façons d'être, d'autres façons de vivre, d'autres façons de voir les choses. Et je recommande vivement l'Écosse. C'est une région non seulement magnifique, mais les gens là-bas sont incroyablement gentils. Là-bas, quand tu demandes où se trouve la poudre de curry dans un magasin, on te dit pas au fond à gauche, on te dit « viens avec moi » et on t'amène chercher ta petite poudre de curry. Et rien que ça, c'est quand je suis revenue en France et que j'ai demandé les pansements au Monoprix du coin, qu'on m'a dit « là-bas », j'ai fait « oh, très bien, je suis revenue en France ». Et c'est vrai que c'est des petits gestes comme ça du quotidien qui te font aussi réfléchir à tes propres façons de te comporter, ta façon d'être, et qu'est-ce que j'ai aimé là-bas et qu'est-ce que j'ai envie de ramener avec moi. Donc ce voyage en Écosse, ça a vraiment été merveilleux. C'était la première fois en fait que je vivais ailleurs, que je vivais dans un autre pays et que je baignais dans une autre culture. Et donc j'ai voulu ramener beaucoup de choses de mon expérience écossaise, parce que je pense qu'on s'enrichit aussi de nos voyages, de la même façon que pendant mes études, j'avais eu l'occasion de partir 5 semaines en Colombie. Et là aussi, j'ai voulu ramener beaucoup de choses de Colombie et c'est l'histoire que je veux te raconter. Donc la Colombie, je suis partie 5 semaines. C'était un petit peu sur un coup de tête, c'était pour rejoindre deux copines qui étaient en échange là-bas. Et je suis partie avec une de mes meilleures amies. On était toutes les quatre ensemble en prépa. Donc c'est vrai que ça faisait un moment qu'on se suivait et ça nous a paru évident de partir à l'autre bout du monde pour les voir. C'était la première fois que je partais seule, sans mes parents ou sans encadrement quelconque. On a pris notre billet, on a pris notre sac à dos, on est arrivé à Bogota et là ça a été incroyable. Mais ça a été une sacrée claque. C'était la première fois qu'on se retrouvait livrés à nous-mêmes dans un pays, certes hispanophone et ça nous allait très bien puisqu'on était bilingues, mais ce n'est pas ta langue, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas exprimer spontanément et parfois il y avait cette barrière de la langue où on était dans l'appréhension de ne pas réussir à se faire comprendre. Très vite, nos doutes ont été levés, on est tombé sur des gens incroyables et qui nous ont fait découvrir leur pays avec passion et avec amour et c'était un très beau voyage. On a profité de ces 5 semaines aussi pour faire un saut 10 jours au Pérou, un petit peu sur un coup de tête aussi de se dire « j'ai toujours rêvé enfant de voir Machu Picchu ». J'ai toujours rêvé de me promener autour de ce lac Titicaca. On trouvait ça tellement drôle, enfant, de dire le lac Titicaca. Et là, je pouvais enfin y être et je me suis dit, je ne peux pas partir d'Amérique latine sans y aller. Donc, plein d'expériences, plein de beaux paysages, énormément de choses, mais aussi des choses moins drôles. Et pourtant, encore une fois, je pense que dans chaque expérience, on peut en extraire quelque chose de bon et quelque chose qui sert à... J'ai pas envie de dire de leçon, mais... Qui sert à avancer et à se construire. Et c'est ce qui m'est arrivé quand nous nous sommes rendus à Cali. Donc Cali, c'est une ville qui accueille l'un des plus gros festivals de musique afro-caribéenne de Colombie et de la région en général. C'est un festival très connu qui attire beaucoup de monde. Et donc nous nous y sommes rendus avec mes 3 copines et un groupe de Français. On a pris le bus de nuit. J'étais épuisée. Et en arrivant au terminal de bus, j'ai été beaucoup moins vigilante que d'habitude. J'ai posé mon sac et je me suis avachie sur une table en attendant mon petit déjeuner. J'étais à bout de force, j'avais le mal des transports et je n'ai pas fait attention à mon sac. En me levant pour aller chercher la commande, je vois qu'il est tombé, qu'il est un peu plus loin de la table que là où je pensais l'avoir laissé, mais je fais pas attention sur le coup, juste hop, je le rapproche, je vais chercher la commande. Et quand je reviens, mon sac n'est plus là. Pourtant, mes copines sont là, en train de discuter, visiblement, il ne s'est rien passé d'anormal. Et donc, je demande où est mon sac, je regarde sous la table, je regarde autour de moi. Et là, je commence à paniquer parce que j'ai tout dans ce sac. Et quand je dis tout, c'est des tout qui sont rien au final pour les gens qui l'ont volé. Pas de tablette, pas de super téléphone, non, juste les vieux shorts que portait ma mère à mon âge et que j'avais embarqué avec moi, le maillot que m'avait offert ma meilleure amie, des choses qui peuvent paraître anodines, un vieil appareil photo mais pourri, mais avec toutes mes photos de mes 3 premières semaines de vacances, les souvenirs que je voulais ramener à mes proches, juste des choses qui sentimentalement m'ont fait mal. Et le geste de, enfin le vol en lui-même, c'est quelque chose de très violent. Je me souviendrai toujours une très bonne amie du lycée qui s'était fait voler juste 3 € dans son porte-monnaie. C'est rien, mais ça veut quand même dire que quelqu'un est venu, a ouvert son sac, a ouvert son porte-monnaie. Et de la même façon, je me suis dit, il y a quelqu'un qui va ouvrir mon sac, qui va éventrer en fait mon sac, qui va avidement chercher quelque chose de valeur à l'intérieur, qui sera déçu parce qu'il n'y trouvera rien. Et ça, c'était hyper frustrant de se dire « Bah désolé mon gars, t'as choisi le mauvais sac. » Et j'étais très en colère. J'en ai aussi un petit peu voulu à mes copines de pas avoir surveillé mon sac. Enfin, dans ce moment-là, c'était juste trop de colère et surtout vis-à-vis de moi, de mon manque d'attention, de vigilance et de se dire j'ai tout perdu et c'est ma faute. Et on a beau se dire dans ces moments-là c'est pas grave, ça fait mal. Je pense qu'on réagit aussi tous différemment en fonction de son attachement aux choses et de on va dire sa résilience. Mais moi, je l'ai très mal vécu et en même temps, je me suis dit, tu es là pour un festival musical, entouré de tes amis et de gens qui comptent passer un bon moment, ne va pas tout gâcher. Je me suis dit, c'est que des objets, prends sur toi, profite et tu verras plus tard. Donc là, cette journée se passe, on va faire quand même la déclaration de vol. Heureusement pour moi, j'avais mon passeport dans une poche, donc j'avais sur moi mon passeport et ma carte bleue. Donc au final, ce qui avait vraiment de la valeur pour rentrer chez moi, ça c'était un vrai soulagement. La journée se passe, on va faire la déclaration. Alors, l'anecdote rigolote aussi à ce sujet, c'est que ce jour-là, le policier qui a pris ma déclaration était un jeune qui m'a draguée. Et je n'ai rien vu. J'étais les yeux bouffis, totalement ébouriffée, triste, je devais avoir un teint livide et à aucun moment je me suis dit, quand il m'a dit oui, donne-moi le numéro de ton ami et si je vais au festival ce soir, je passerai vous voir. Moi je me suis dit, non mais c'est peut-être pour me donner des nouvelles du vol de mon... J'étais à des années-lumière de comprendre ce qui se passait et c'était super drôle et on en parle encore avec les filles de se dire mais à n'importe quel moment, mais pas celui-ci, enfin j'étais pas du tout, mais c'était marrant. C'était très marrant et avec le recul. Sur le coup, vraiment, je disais, mais qu'est-ce qu'il me veut? Est-ce qu'il m'a vraiment bien regardé? C'était drôle. C'était très drôle. Et donc, la soirée se passe. On passe un très bon moment tous ensemble. La musique est incroyable. On est le plus gros groupe de blancs du festival, en tout cas dans notre entourage proche. Donc, on attire les regards, on attire les moqueries parce qu'on essaie de se déhancher en rythme et on n'avait certainement pas le bon rythme parce qu'on faisait beaucoup rire les gens. Mais on a aussi beaucoup de gens, du coup, qui sont venus nous voir, qui nous ont dit « danse comme ci, danse comme ça, fais ci, fais ça ». C'était juste incroyable de... Ouais, on a eu un vrai moment de partage autour de la danse avec ces gens-là. Et le lendemain matin, tout le monde dormait, tout le monde était très alcoolisé. Moi, autant dire que j'avais pas réussi non plus à faire la fête comme j'aurais dû ou pu la faire. Donc je me lève avant tout le monde. Je me sens pas très très bien. Je sais que je vais devoir faire toutes les démarches par rapport au vol du sac. Je prends une bonne douche. Sauf que c'est un endroit de Colombie où il fait très moite. Et en fait, tu sors à peine de la douche que tu es déjà transpirant. Donc je perds en quelques minutes le bénéfice de cette bonne douche froide. Je me dis, bon, c'est pas grave, quand il faut y aller, faut y aller. Et je pars dans un cybercafé pour appeler la banque, appeler les assurances, appeler ma mère pour la rassurer. Et en fait, en appelant ma mère, je fonds en larmes. Et de nouveau, je me laisse submerger. Et je crois que j'avais besoin d'entendre ma petite maman me dire « c'est pas grave ». Et j'avais beau le savoir, j'avais besoin de l'entendre à travers les milliers de kilomètres qui nous séparaient. J'avais besoin de cette petite voix réconfortante qui m'arrivait de France. C'était un rattachement à la maison dont j'avais dont j'ai ressenti le besoin. J'ai raccroché, j'ai quitté le cybercafé, j'avais encore les yeux un petit peu rouges. Et en sortant du cybercafé, je passe devant un petit couple de vendeurs à la sauvette. Je ne les vois pas sur le moment. Je ne les regarde pas, je suis totalement centrée sur moi et mon petit malheur. Et j'entends la voix douce et très interrogative de cette dame qui me demande « Pourquoi llores, nena ?»« Pourquoi tu pleures, ma douce ?» Et je me retourne. Et c'est trop pour moi, j'ai qu'une envie, c'est de partager cette histoire et d'expliquer à quel point je suis triste, à quel point je suis en colère. Et de nouveau, je fonds en larmes et je lui raconte tout. Et plus je parle, plus les gens autour se regroupent, viennent écouter mon histoire, les petits curieux, je vois des regards soucieux, et puis je vois des gens en colère aussi. Et cette dame, elle est en colère, et elle me dit « je suis désolée de ce qu'ils t'ont fait, et c'est pas bien de faire ça à une jeune fille si loin de chez elle, et je sens vraiment de la colère chez elle, et ça me touche ». Et je vois son petit monsieur à côté qui me regarde d'un air très sévère aussi, et qui hoche la tête aux propos de sa femme. Et il me tend une bouteille de 7-Up. Et alors ça, je lui dis, j'ai pas d'argent, je viens de tout me donner pour passer mes appels au cybercafé. Et il me regarde et il me dit, en réparation. En réparation. Et je me dis, ce n'est pas à toi de réparer le mal qui m'a été fait. Et pourtant, tu essaies. Et par ce petit geste, a priori anodin, tu bouleverses ma journée. Et je pleure de plus belle parce que c'est tellement... gentil, c'est juste gentil en fait. C'était quelqu'un de gentil qui voulait à sa façon me remonter le moral. Et ce jour-là, j'ai bu ma première bouteille de 7-Up. Je n'avais jamais bu de cette boisson et aujourd'hui, chaque fois que j'en bois, j'ai le souvenir de ce petit papy et de cette petite mamie dans la rue, ces petits vendeurs d'arepas qui ont adouci ma journée, vraiment. C'était la première et certainement pas la dernière de mes expériences par rapport à ce sac volé. Parce que je suis retournée à l'auberge. Là, je me suis bien rendu compte qu'il allait falloir que je m'habille pendant les semaines qui me restaient. Donc, nous sommes rendus dans un petit magasin. Je peux pas dire que c'était un magasin de fringues, parce que c'était un magasin de tout. Il y avait des grippins au sol, il y avait des chaussures qui n'étaient pas vendues par paire, il y avait des tas de vêtements dans des coins, il y avait à peu près tout et n'importe quoi. Et donc, mon ami explique la situation à la vendeuse, qui, une fois encore, s'excuse, s'excuse au nom de ces hommes, au nom de ce qu'ils ont fait, et je la vois partir dans l'arrière-boutique. Je la vois récupérer un carton de fringues, elle les pose devant moi, et elle me dit « prends ce que tu veux ». Donc moi, je lui demande combien coûtent les vêtements. Elle me dit « prends ce que tu veux ». Et je dis « ah non, mais je vais vous payer ». Elle me dit « non, pour ce que tu as vécu, prends ». Et alors, encore une fois, tu te prends une deuxième claque et tu te dis « mais waouh !» Enfin, honnêtement, les gens dans cette ville, et en Colombie en général, vivent quand même pour la plupart, pas tous, faut pas faire de généralité, c'est sûr, mais il y a quand même beaucoup de pauvreté, beaucoup de misère sociale, et c'est des gens qui, en n'ayant pas grand-chose, sont capables de te donner du réconfort et tout te donner juste par principe, voilà, par réparation. Et j'ai trouvé ça incroyablement gentil. J'ai pris 2 t-shirts et 2 pantalons, que j'ai d'ailleurs redonné quand j'ai quitté la Colombie. Et voilà, je me suis juste pris une énorme claque de gentillesse et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou de me rendre compte que un petit geste, un petit rien, il peut vraiment avoir un impact sur la personne que t'as en face. Et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de ramener de Colombie. Ce moment où en rentrant dans une boulangerie, tu demandes juste à la boulangère « vous allez bien ?» et qu'elle te regarde droit dans les yeux et totalement... choquée par ta question qui pour elle n'a pas de sens dans son quotidien parce qu'on ne la lui pose plus. Donc ça, c'était au final l'histoire de mon sac volé, c'est que je suis, avec le recul, satisfaite, je dirais pas heureuse, mais en tout cas reconnaissante envers ces trois hommes vus à travers les caméras de sécurité en train de voler mon sac, parce que ils m'ont permis de rencontrer des gens qu'en temps normal je n'aurais pas vu, que je n'aurais pas regardé, à qui je n'aurais pas adressé la parole autrement que par un « bonjour, il me faut des vêtements ». Je trouve qu'on s'ouvre beaucoup plus quand on est dans une situation d'instabilité ou dans une situation où on est hors de notre zone de confort. C'est des choses qu'on trouve dans les voyages, mais je pense que c'est parce qu'on ne se donne pas le droit et les moyens de les trouver dans notre quotidien aussi. Donc oui, c'est quelque chose que j'ai voulu ramener avec moi à Paris. Paris où je vis maintenant depuis 5 ans, puisque en terminant mes études, j'ai trouvé mon premier travail ici. Un premier travail du coup dans le consulting, donc je conseille des entreprises pour mettre en place des procédures pour être conforme aux lois. C'est un travail dans lequel je trouve beaucoup de plaisir. Mais je sais très bien aussi que Paris, pour moi, c'est une étape, c'est une feuille, et que la feuille suivante, ce sera peut-être à Bordeaux, peut-être à Toulouse, peut-être ailleurs. Et c'est quelque chose dont on a eu l'occasion de parler toutes les deux avant cette interview, mais au final, je pense que personne aujourd'hui n'est capable de dire « je suis là où je pensais être il y a 5 ans ». Donc, je ne sais pas où je serai, mais j'y vais. Et j'y vais avec enthousiasme, avec plein de projets, avec plein d'envie. Et je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux aux gens aujourd'hui, c'est de, quoi qu'ils décident, quoi qu'ils fassent, de s'épanouir dans leurs projets et de foncer et d'être en paix avec leurs décisions.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Œil, retrouve-moi sur le site internet Nouvel Œil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Œil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment 2 minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel Œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.